Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Ben, salut Léa.
Salut.
Comment ça va?
Ça va, ça va. Il fait pas beau, mais ça va.
Ouais, c'est vrai, c'est ça qui... Je pensais que tu m'offrirais la vue sur les montagnes. Mais
Il y a une belle vue en plus, mais là, on voit rien du tout.
Ouais. C'est jour de pluie aujourd'hui, donc voilà, jour de home trainer aussi.
C'est ça.
Donc voilà, mais en tout cas, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de m'inviter aussi, du coup, chez toi. Du coup, on se rencontre dans le cadre de ton partenariat avec la team BPOA, donc Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'on remercie chaleureusement et on aura forcément quelques petites questions sur eux et aussi des questions de leurs collaborateurs qui voulaient te poser. Et Dieu sait qu'ils sont curieux et fans de triathlon. Donc très chouette, je suis vraiment ravi d'être là. Comme je te disais, il y a une question traditionnel sur le podcast, que j'ai parlé à beaucoup d'athlètes, dont certains que tu connais bien, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
C'est vrai que c'est une question compliquée. Comme ça, c'est dur de se rappeler. Je pense mon premier souvenir de sport, je dirais, c'est quand j'ai décidé de mettre à la natation en club. Ouais. Et sauf que j'ai commencé un peu tard par rapport à certains, enfin, et tôt par rapport à d'autres, j'ai commencé en CE2, mais j'avais pas les bases. Et du coup, pendant les vacances d'été, j'avais demandé à mon frère de m'apprendre tout ce qui est virage, les trucs un peu basiques, mais pour pas avoir l'air ridicule. Et du coup, pendant une semaine, il me faisait faire des virages dans les bassins de l'hôtel pour que je sache faire quand je rentre.
Bah écoute, moi je suis toujours pas bon sur mes culbutes, parce que je veux bien un petit cours de Dorian aussi.
C'est efficace.
Ok, trop chouette. Et du coup, c'est la natation, c'est le premier sport que tu pratiques ?
Ouais, j'en ai fait petite. Bah ma mère, elle savait pas nager. Du coup, c'était vraiment sa phobie. Elle voulait que ses enfants savent nager. Ouais. Et mon père, à l'inverse, est un nageur. Donc lui, il voulait qu'on essaye tous les sports possibles avant de se mettre à la natation, parce qu'il voulait pas nous forcer. Du coup, on a tous les deux fait les bébés nageurs. Et après, moi, j'ai fait beaucoup beaucoup de sports. J'ai fait du basket, de la danse classique, de la gym, du tennis. Jusqu'au jour où un ancien entraîneur de mon frère, il me voyait nager avec l'école, en fait. Ouais. Et qui m'a dit, mais franchement, faut que tu reviennes essayer, tu vas aimer, tu vas voir, faut que t'essayes la natation. Et du coup, je me suis remis comme ça à la natation en CE2, je pense, par là, CE2, okay. CM1.
Ok.
Et après, j'ai pas arrêté la natation.
Ok. Ouais, c'est, il t'a vu nager, il t'a dit, tiens, il y a un potentiel, il faut que tu...
C'est ça, il m'a dit, faut que t'essayes quand même.
C'était pas trop dur ou peut-être trop répétitif la natation pour une enfant de CE2. Tu vois, moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à nager parce que je trouvais ça un peu dur. Ça manquait un peu de jeu pour moi. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était quoi tes premières sensations dans l'eau et tes premières émotions ?
Ben ça va, parce que du coup CE2 c'est avenir poussin. Ouais. Et à ce moment-là, ils gardent quand même encore le jeu. Dès qu'on faisait une compétition, on allait à l'entraînement le lendemain. On faisait que une heure de jeu. Du coup, à ce moment-là, ça va encore. Je pense que le plus dur, le changement le plus dur, c'est peut-être quand on passe au collège. Et ouais. Que nous, à l'époque, c'était le Nautique Club Échirolles. Et qu'à cette époque-là, ben, au collège, il fallait décider si t'étais en classe sportive ou pas. Et là, du coup, c'est à ce moment-là, je pense, où tu prends la décision et où ça devient plus dur. Enfin, tu deviens plus vrai sportif, entre guillemets. C'est plus que du jeu, quoi.
Ouais. Et toi, ton choix, alors ?
Ben, moi, j'ai décidé d'être en classe horaire aménagée natation. Mais ça a été dur. Ça a pas été forcément un choix logique pour moi. Au début, j'ai quand même pas mal réfléchi à savoir si c'était ce que je voulais ou pas, quoi.
C'est vrai, ouais.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui te faisait douter ?
Je pense que c'était ce que ça demandait, enfin, le fait de passer, que ça devienne plus dur et que ça prenne plus de temps et que tout d'un coup, la natation, ça devient assez important, quoi.
Ouais.
Et parce que, ouais, je pense, contrairement à d'autres, j'ai pas été tout de suite dans le truc où je me suis dit, je suis sportive de haut niveau, j'allais faire ça ma vie. C'était pas forcément mes plans, enfin, j'avais peut-être pas forcément de plans du tout, mais en tout cas, genre, je pensais pas ça tout de suite au collège, donc.
Ça te faisait pas rêver ou t'avais pas de poster d'athlète dans ta chambre ou...
Non, pas encore à ce moment-là.
Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à y aller ? C'était faire plus de sport ? C'était passer moins de temps à l'école
Ben, je pense faire plus de sport parce que mine de rien, depuis petite, j'ai fait plein de sports et j'ai toujours fait du sport. Donc c'est vrai que j'aimais bouger et la natation, ça me plaisait. Le groupe aussi, on était un groupe d'amis et en fait, on s'est suivis au collège. Donc c'est vrai que c'est cool aussi de retrouver des gens qu'on connaît. Surtout le changement primaire-collège, il fait toujours un peu peur. Donc là, tu savais que t'allais être avec des gens que tu connaissais. Donc je pense que c'est plus tout ça et le fait de vouloir quand même essayer. Genre d'être sûr de ne pas regretter d'y être allé. Je me disais au moins j'y vais, si après au final ça me plaît pas, je peux toujours arrêter, mais au moins j'aurais essayé, quoi.
Ouais, c'est sûr qu'il faut tenter sa chance quand on a cette opportunité-là.
C'est ça, ouais.
Ouais. Ouais. Parce qu'elle se représente rarement deux fois en plus.
Ouais, et puis c'est compliqué dans l'autre sens de switcher après.
Ok. trop chouette. Et à l'école, ça se passait comment ? Les notes
Ça va, j'ai eu de la chance d'être une bonne élève et d'avoir quand même des facilités. Ouais. Du coup, pour ça, il n'y a pas eu de soucis. Puis jusqu'au lycée, j'aimais même bien travailler en cours, donc ça allait. ça plaisait bien mes parents aussi. Mais non, du coup, pour ça, ça n'a pas été la période scolaire, collège, lycée, ça n'a pas été un souci pour moi de faire les deux, quoi.
Ouais, ouais, t'as pas eu de pression particulière des profs ou de...
Non, donc. Peut-être un peu plus au lycée. Au collège, on était vraiment un collège aménagé et c'était avec le club de natation, c'était prévu, donc pour ça, c'était facile. Au lycée, c'était peut-être un peu plus compliqué parce que ben là, je faisais plus que de la natation, j'étais passée aussi au triathlon.
Ouais.
Et il n'y avait pas d'aménagement, en fait. On était joint à une classe avec des hockeyeurs, du coup, parce qu'à Grenoble, il y a beaucoup d'hockeyeurs. Et sauf que c'était pas du tout des aménagements qui nous convenaient. Et les profs de PS, souvent, ils sont... Alors qu'on s'attend à ce que ce soit les professeurs les plus compréhensifs, ben souvent, c'est les plus durs avec les sportifs de haut niveau.
Okay.
Donc, c'est vrai que des fois, c'est... plus au lycée, ça a été peut-être un peu plus dur à gérer, mais ça va.
Ouais, ouais, c'est marrant parce que ce que tu dis, moi, ça m'avait jamais sauté aux yeux, mais c'est vrai que moi, c'était mes profs de PS aussi qui étaient les plus exigeants avec moi. Moi, j'ai fait sport études tennis, tu vois, on aurait aménagé. Et c'est vrai que les profs... était très dur quoi avec les quelques-uns qui avaient des horaires aménagés quoi.
Ouais ben moi je sais que du coup je suis rentrée sur liste ministérielle en première. Donc à ce moment-là, j'avais le droit de demander au lycée de pas assister aux cours de PS, donc tu gagnais quand même 2 heures dans ta semaine.
Ouais.
Et à ce moment-là, c'est vrai que les profs, ça dépendait sur quel professeur tu tombes, ils pouvaient être durs et je pense qu'en fait, c'était le côté où déjà les élèves souvent au lycée, ils aiment pas beaucoup le sport, mais si en plus ceux qui font du sport, ils viennent pas. Ça les vexe quoi. Et du coup, c'est vrai qu'ils étaient des fois assez durs là-dessus. Ouais.
Ok. Et c'était quoi tes matières préférées? Tiens, je suis curieux.
Mes matières préférées, c'était, je pense, la SVT.
Ok.
Ouais. Mais même pas le sport.
Donc peut-être des envies ou des pensées peut-être de faire peut-être une carrière plus médicale ou plus scientifique de façon générale.
C'était scientifique pour moi. C'était ce qui m'intéressait le plus. Et puis j'étais pas du tout. On n'est pas dans un sport où on s'imagine pouvoir forcément gagner sa vie ou en tout cas où on sait que ça va être compliqué. Donc c'est vrai que j'ai toujours cherché ce qui me plaisait le plus.
Ouais.
Et au départ, je me disais ouais bon tu veux faire du sport, va en fac de STAP, ce sera plus simple, pose-toi pas de questions. Puis après, j'avais regardé les métiers qui s'ouvraient à moi après. Et en fait, je m'étais dit, ben, ça m'intéresse pas du tout. Entraîneur, kiné, professeur de sport, c'était pas des métiers qui me plaisaient. Et du coup, en fait, je m'étais orientée après sur une licence de biologie.
Ok.
Donc, rien à voir, mais...
Ouais. Non, mais après, il y a plein de choses, tu vois, je pense, la SVT, tu vois, où tu peux trouver des passerelles au sport, tu vois,
oui, c'est sûr.
Le fonctionnement du corps humain. Il y a plein de choses intéressantes, ouais. Qu'est-ce qui fait, si on parle un peu plus de sport, qu'est-ce qui fait que tu passes de natation only, enfin uniquement, à au triathlon?
Moi, quand je me suis mis à la natation, la nage qui a été le plus simple pour moi, c'était la brasse.
Okay.
Donc pas du tout le crawl pour le triathlon. Et sauf que j'ai eu des problèmes de genoux petites. Du coup, la brasse, ça a été un peu compliqué. Et du coup, ben, c'est vrai que ce qu'on disait, la natation, c'est un sport assez répétitif. Donc, si t'as pas forcément les résultats que t'espères ou quoi, ça devient vite lassant.
Ouais.
Et à ce moment-là, il y avait mon frère qui se mettait au triathlon de son côté. Et nous aussi, il faut savoir que pour au collège Louis Lumière à Échirolles, on était obligés de faire les crosses pour représenter le collège. C'était dans les deals avec le club. Et du coup, je courais comme ça, mais le peu que j'ai couru, j'avais vachement bien aimé. Et quand j'ai voulu arrêter la natation, je me voyais pas du tout arrêter le sport. Et du coup, je me suis dit, ben, allez, pourquoi pas essayer le triathlon, ça a l'air d'être pas mal.
Ok. Et ça t'a tout de suite plu, l'enchaînement des trois sports, justement ce doux mélange musculaire et d'anaérobie
Ben, j'ai commencé par les aquathlons, je pense, comme tous les nageurs, c'est le plus simple au début.
Ouais.
Et ça m'a assez... Ça m'a plu tout de suite. Après, je pense que j'ai eu la chance d'avoir quelques petits résultats assez rapidement. Donc, c'est sûr que ça motive forcément aussi à continuer là-dedans. Mais c'est vrai que ça m'a vachement plu. Et surtout, à partir de là, c'est la course à pied qui m'a plu énormément, quoi, où j'ai vraiment aimé courir et aimé faire ça, quoi.
Aujourd'hui encore, c'est la partie que tu préfères ?
Ouais, la course à pied, c'est la partie où je m'amuse le plus. Et même aux entraînements, je pense pour moi, c'est la partie la plus facile où même sur les footings, tu mets tes écouteurs, t'écoutes de la musique, t'es tranquille, tu te vides la tête, il y a personne qui t'embête. T'es dans des endroits sympas. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir courir dans des endroits sympas à Grenoble aussi. Donc ouais, non, la course à pied, ça a été un coup de cœur.
Okay. Ouais, le côté liberté à la fois et simplicité aussi.
Ouais, c'est ça.
Pas besoin de mettre un maillot de bain dans la piscine.
Ouais.
De sortir le vélo, tu mets tes baskets, tu vas quoi.
C'est ça, ouais.
Ok. Tu fais combien au 10?
Au 10, ça date d'il y a un an.
Ouais.
J'ai 33-40, si je dis pas de bêtises.
Oh, costaud.
Sur, okay. Ouais. Sur un parcours pas très rapide. Donc, je m'étais dit qu'un jour, j'en ferai un sur un parcours plus rapide, quand même, pour voir ce que ça donne.
Ouais. Bah, c'est vrai que là, ouais, t'as un agenda tellement chargé. Tu dois forcément avoir envie de te tenter sur 10 ou peut-être moins ou plus, d'ailleurs. Mais c'est dur de trouver le bon moment, quoi, pour le pic de forme.
Ouais, non, c'est vrai que... Bah, l'année dernière, j'en avais fait pas mal parce que c'était... En fin d'année, ça m'avait permis, en fait, au lieu de faire, quand la saison elle est un peu longue, au lieu de faire des séances, ben, tu mets un dossard et c'est ouais. Plus sympa, ça te sert de séance. Du coup, comme ça, j'avais réussi à en faire pas mal, mais du coup, c'est vrai que c'est pas forcément des courses que tu prépares et où t'arrives, t'es au top et tu peux faire vraiment le meilleur temps.
Ouais. Mm-mm. Bon, on voyait, ouais, certains triathlètes faire un peu de cross ou faire un peu de.
Ouais, bah, course, les cross, après, c'est plus c'était l'hiver.
En plus, c'était en plus de. Mm-mm. Sur du hors-saison, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc la perf, elle est pas mal. Mais écoute, 33-40 déjà, ça rigole pas du tout, du tout. Ça te tentera un jour de faire du plus long, à la fois en triathlon ou en course à pied c'est bon, je te dis ça, t'as encore largement le temps, tu vois, mais.
Ouais. Alors en triathlon, ça m'attire pas du tout. C'est vrai que je pense que j'ai trop peur de rester aussi longtemps toute seule sur mon vélo. Mais sinon, non, après, en course à pied, ouais, ça me tenterait carrément de faire un semi, même plus tard peut-être un marathon, ou ouais. Même tout ce qui est trail et ultra-trail. C'est vrai qu'en plus, là, t'es dans des paysages de fou. C'est plus des extrêmes comme ça qui me donnent envie que Ironman, tout ça, ça m'attire pas. Ouais. En tout cas, pour le moment, ça m'attire pas du tout.
Ouais, moi, t'as le temps de revenir sur ton choix. Mais, mais c'est vrai que les 90 km sur le vélo, déjà, ça commence à faire un peu long. 180, on en parle
ouais,
même pas.
C'est clair. Puis t'es là tout seul, non, ouais. C'est pas, pas pour le moment.
Ouais, en plus, bah après, ouais, sur le... quand t'as le droit de drafter et du coup d'être en peloton, il y a un petit côté un peu stratégique, une énergie
c'est,
un peu globale.
C'est différent, ouais. Parce que du coup, sur Ironman, ils sont là, ils savent les watts qu'ils doivent mettre, qu'il faut pas dépasser, tout ça. Alors que nous, ben, t'es dans l'action, quoi. Faut être dans le meilleur groupe qu'il y a à vélo, donc de toute façon, tu réfléchis pas trop, quoi.
Ouais. Vous foncez et puis...
C'est ça, ouais. T'as pas trop le choix.
Et à quel moment... tu commences à entrevoir, tu vois, une carrière dans le triathlon. Est-ce que c'est, tu vois, je sais pas là, est-ce qu'il y a eu des rencontres avec peut-être des triathlètes féminines qui t'ont inspiré? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu te dis, tiens, en fait, c'est possible et c'est ça que j'ai vraiment envie de faire?
Ouais, je pense, ça a pas été tout de suite parce que petite, je me blessais très rapidement.
Okay.
Du coup, c'est vrai que les premières années en triathlon, elles ont été un peu compliquées. J'ai pas eu une progression forcément de fou tout de suite. Et après, je pense, c'est peut-être plus quand je suis rentrée au club de Metz,
ouais.
Donc en première ouais. Terminale, et que je suis rentrée sur le circuit D1, donc le meilleur circuit qu'il y a en ce moment en France sur les clubs et même à l'international, parce que du coup, on a beaucoup d'étrangers internationaux. Et où du coup tu te confrontes à des athlètes plus âgés, des fois des athlètes où jusqu'à présent qui te paraissaient intouchables, et là tu te dis en fait ben je suis peut-être pas si loin que ça. Du coup je pense que c'est là où ça a commencé à vraiment plus me motiver, à me donner envie d'aller chercher quelque chose en triathlon, quoi.
Ouais tu t'es confronté au meilleur, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Et tu te dis ouais, en fait c'est possible. Puis à ce moment-là tu fais pas encore des résultats de ouf parce que t'es jeune, c'est tes premières courses, mais genre ça paraît quelque chose de possible. Tu te dis pas, je suis ridicule et je suis à des années-lumière du truc, quoi.
Ouais. Et c'est marrant. Enfin, au début de notre conversation, tu vois, tu mentionnais un peu le fait que le triathlon, on ne sait pas si on peut en vivre. Là, du coup, les athlètes que tu rencontres, ils sont pros, ils en vivent. Tu peux en parler, tu vois, quand t'es la petite jeune nouvelle sur le circuit. Tu vois, j'imagine que t'as besoin d'informations aussi, t'as besoin de connaître. Alors, il y a peut-être des entraîneurs, des contacts et tout, mais ça vaut pas le retour d'un athlète.
Ben, je pense que pour ça, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un grand frère qui était là-dedans et pour qui ça a décollé beaucoup plus rapidement parce qu'il a eu des très bons résultats chez les jeunes. Et c'est vrai que je pense, du coup, j'avais cette chance-là. Mais en même temps, du coup, ce côté-là où ça pouvait être aussi un peu perturbant parce que du coup... ben lui il y était depuis tel âge et moi passé cet âge-là tu te dis ben je me voyais toujours pas arrêter les études parce que je gagnais pas encore ma vie, donc je pense que c'était un peu les deux c'était bien de l'avoir et en même temps je pense que peut-être ça me faisait un peu plus stresser aussi de voir que lui il en vivait déjà et que moi j'en étais loin quoi.
Ouais ça te pousse toi-même un peu à la comparaison et un peu les autres et du coup ça va pas être toujours facile.
Ouais, non, c'est sûr.
Quand t'es ado et tout, c'est pas facile.
Ouais, la comparaison avec mon frère, maintenant je pense qu'il y a plus trop de comparaison. Ouais. Et puis c'est vraiment, c'est que du positif, mais c'est vrai que quand j'étais plus petite et que je commençais et que lui il a eu très tôt, ben il a été champion d'Europe junior, champion du monde junior. Ouais. Du coup c'est vrai que là ça avait été assez dur. Ben, je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des propos, enfin que je trouvais ça assez dur, comme par exemple, oui, mais elle est forte, mais on sait qu'elle sera jamais aussi forte que son frère. Ou... Ouais. Alors qu'on avait, bon, on a 4 ans d'écart. Lui, c'est un garçon, c'est une fille, donc déjà, ça paraît assez hallucinant de nous comparer.
Ouais.
Ou sur les lignes de départ, où au final, ben, on était appelés, les 10 premiers étaient appelés sur les championnats de France. Et je me rappelle, c'était après son titre de champion d'Europe junior, où donc moi je rentrais sur les championnats de France d'aquathlon et je rentrais parmi les favorites, mais au final on a même pas prononcé mon prénom pour m'appeler parce qu'on a dit la petite sœur de Dorian qui vient d'être champion d'Europe.
C'est
du coup c'est ouais, puis c'est stressant de ouf quoi, tu te dis en fait si je gagne pas genre je fais rien quoi.
Ouais, c'est clair.
Du coup ouais, sur ce côté-là, c'est vrai que petite c'était assez dur et maintenant c'est plus pareil.
Ouais. Maintenant tu t'es fait une place, les gens.
Ouais, c'est
les gens
ça.
Savent,
les gens,
chacun son rythme aussi.
Ouais.
Et puis aujourd'hui tu montres que.
Ouais,
que
je pense maintenant. Ben, le fait qu'on soit passé à l'international aussi tous les deux, ça fait que il y a moins ce côté de comparaison, je pense en fait au niveau international.
Ouais.
Et qu'avant c'était plus sur le côté vraiment national où les gens ils regardent plus tout ça.
Ouais.
Parce que je sais même que maintenant mon frère souvent à l'international. Les athlètes viennent lui demander si je suis pas sa femme quand il va y connaître. Donc pour le coup, eux, ils ont pas la comparaison directe, quoi.
Ok. C'est marrant parce que du coup, dans chaque milieu, les gens ont des questions.
C'est
des interrogations différentes. Ok. Mais c'est marrant parce que lui, on en avait parlé un petit peu dans l'échange, il me disait que lui, il avait souffert du fait qu'il avait été très bon très jeune. Et qu'il fallait après prouver sur le circuit pro et que ça avait été un peu plus en dents de scie, tu vois, et qu'il était passé à côté de certaines courses, quoi. Comme quoi, tu vois, on cherche toujours des poux.
C'est clair, c'est jamais facile.
Pas, quoi, il y a toujours ça. Mais ok, mais en tout cas, très intéressant, tu vois, le point de vue que t'aimais avec peut-être les deux côtés, le bon côté et le moins bon côté aussi. et c'est chouette. Toi, t'as toujours gardé ce double projet avec les études?
Ouais, du coup, moi, j'ai fait un bac S et je suis partie en licence de biologie à l'université de Grenoble-Alpes.
Ouais.
Où du coup, j'ai pu avoir des aménagements, donc j'ai fini ma licence cette année, enfin, de l'année dernière. Parce que j'ai fait 6 ans au lieu de 3, je faisais une année en 2 ans.
Ouais.
Après, moi j'avais vraiment dans ma tête où tant que je pouvais pas subvenir à mes besoins, ça me paraissait impossible d'arrêter les études parce qu'en fait c'était quelque chose qui me faisait trop stresser aussi en fait de prendre ce risque, je pense,
bien sûr.
D'avoir besoin. Et c'est quelque chose, je sais pas si ça m'a impressionné les gens qui arrivaient à le faire ou si je les trouvais fous. Mais moi, c'était quelque chose que j'étais pas capable de faire. Puis en plus, j'ai eu la chance de trouver un domaine qui me plaît vraiment beaucoup parce que c'est vrai que concilier les deux, si c'est un domaine qui te plaît qu'à moitié ou t'es pas sûr de toi, c'est pas possible, quoi. Donc pour ça, c'est vrai que j'ai eu la chance de trouver un truc qui me plaît et d'avoir pu valider ma licence. Et là, je suis rentrée en master cette année-là.
Ok. Ok, trop chouette, trop chouette. Et master de quoi ?
Je suis en master ingénierie de la santé pour travailler dans le domaine écotoxicologie, écologie, tout ça plus tard.
Ouais. Ça te fait du bien aussi, tu vois, de sortir un peu du monde du triathlon. Je me souviens de mes bons copains triathlètes et c'est vrai que quand on était dans des phases de préparation, de course, les déjeuners, les dîners, les sorties, c'était triathlon à toutes les sauces, tu vois. Forcément, il y a trois sports, c'est ultra exigeant. Ça demande beaucoup d'organisation. On va en parler après parce que tu me le disais un peu avant qu'on commence. Partir sur une course, sauf il y a beaucoup de choses à préparer, à anticiper. Toi, ça te fait du bien de pouvoir justement sortir de tout ça, de ce triple sport, et de pouvoir un peu parler d'autres choses, de créer de la curiosité intellectuelle sur d'autres sujets, et puis sûrement de rencontrer d'autres gens, j'imagine.
Ben, c'est vrai que surtout au début de la licence, rencontrer des gens, tout ça, c'était super agréable. Puis ça, pour le coup, ce côté-là, il s'est un peu perdu au fil des années parce que du coup, ben, j'ai aussi progressé en triathlon et du coup, j'ai eu plus d'entraînement, plus de compètes. Donc, ce côté-là, il s'est un peu perdu. Ou alors, les gens que je côtoyais, ça restait des sportifs de haut niveau, mais d'autres sports. Donc, c'est cool aussi de pouvoir voir comment ça se passe ailleurs. Et après, ouais, je pense maintenant, c'est le côté aussi d'avoir des objectifs ailleurs, en fait, qu'en triathlon. Et du coup, que ça crée quand même un équilibre. Et je pense qu'à peu près tous les sportifs avec qui j'ai parlé qui ont la chance de pouvoir continuer leurs études, parce que des fois, c'est dans le domaine qu'on veut faire, c'est pas forcément possible, en tout cas pas dans le pays où on est. Du coup, c'est vrai que c'est une balance et que je trouve agréable, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoute, tant mieux. tant mieux. Et qu'est-ce qui t'a fait, tu vois, t'accrocher et tenir, parce que du coup, tu progresses, tu rentres sur les circuits professionnels. Tu l'as dit au début, c'était pas facile. Il y a eu des moments un peu plus durs, tu vois. À ton rythme, qu'est-ce qui, tu vois, et en plus il y a les études, donc j'imagine l'agenda extra large. Je préfère pas regarder ton calendrier, mais je suis sûr qu'il doit pas y avoir beaucoup de place. Qu'est-ce qui fait que tu t'es accroché, tu vois, que t'es jamais lâché, parce qu'il y a des moments où ça devait être dense, tu vois.
Ben, je pense le fait. Le sport, c'est quelque chose de super ingrat. Tu t'entraînes des heures et tu te fais mal des heures pour quelque chose de super court et des fois pas forcément le résultat que tu veux. Mais je pense qu'en fait le petit résultat des fois qui est dur à aller chercher mais que tu vas chercher, bah c'est celui-là qui te fait du bien et qui te permet de repartir et de retenir encore une année jusqu'à un autre résultat et ainsi de suite, quoi.
Ouais, ok.
Je pense que c'est vraiment ça. Après. J'en ai eu, ça m'est arrivé une fois d'avoir vraiment une grosse période de doute où je me suis dit qu'est-ce que je fais là, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire?
Mais c'était à quel moment?
C'était en 2019. J'avais eu une début de saison pas ouf. Après, ça s'était vachement bien passé. J'avais fait mon premier podium en D1, mon premier podium sur Coupe d'Europe Élite. Et je venais d'apprendre ma sélection pour mes premiers championnats d'Europe U23. Et j'ai eu une mononucléose quelques semaines après, mais une mononucléose, j'ai été hospitalisée, je suis restée un mois à plus de 42 fièvres, enfin ça m'avait vraiment couché. Et là du coup, ben déjà la fatigue que la mononucléose engendre, elle est énorme.
Ouais. Puis ça joue sur le moral.
C'est ça, énormément. Et après, je pense que la reprise, on te dit dès que t'es fatigué, faut que tu t'arrêtes, mais en même temps ça fait 3 mois que t'as pas fait de sport, donc tu te dis je vais forcément être fatiguée. Donc le juste milieu, il a été un peu dur à trouver. Et en fait, c'était l'hiver. Et moi, je me disais, faut que déjà que t'es fatiguée, faut que tu vois personne. Donc je me privais énormément. Je voyais quasiment pas mes amis. Je sortais pas, je faisais rien. Et je pense que là, ça a été super compliqué. Genre ça a pas été un burn-out. Mais ouais, je pense que physiquement, ça allait. Les entraînements, ça se passait. Mais moi, ça suivait pas du tout, quoi. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, j'avais dû prendre la décision qui avait... Ça avait été dur pour moi, parce que je pense que pour un sportif, c'est toujours dur de dire quand t'as besoin d'un break. Ouais. Et là, je m'étais dit, en fait, si je continue, c'est soit je vais décider d'arrêter et je le regretterai, soit je vais me blesser et ça va être trop compliqué, quoi. Mmh. Et du coup, je me rappelle que la seule personne avec qui j'en avais parlé, c'était mon frère, pour avoir son avis. Et j'étais partie, du coup, j'avais dit à mon entraîneur, je lui ai dit, ben, j'arrête tout pendant un mois. Et j'étais partie chez mon copain de l'époque qui habite en Bretagne. Et pendant un mois, je faisais ce que je voulais, quoi. Si je voulais aller faire un truc, je le faisais. Si je voulais pas, je le faisais pas. J'avais pas de contact au niveau triathlon, quoi.
Ouais.
Et j'étais revenue et c'était ils pouvaient me faire des semaines à 30 heures, il y avait aucun souci, quoi. Parce qu'en fait, dans la tête, j'avais réglé ce que j'avais à régler. Et du coup, ben, en fait, et là, tu te rends compte que la tête, c'est ça qui fait tout, quoi. Le corps, ça peut aller. Si la tête, ça va pas, ce sera compliqué, quoi.
Ouais. Mais c'est fou comme des fois, tu vas faire un break, c'est important pour recharger complètement les batteries, pour changer les idées.
Ouais, c'est clair. Mais et puis je pense que c'est ce qu'on a beaucoup de mal à faire en tant que sportif. Faire un break et le faire au bon moment, quoi. Pas se dire non, mais bientôt je le ferai. C'est non, c'est si t'en as besoin tout de suite, faut le faire tout de suite, quoi.
Ouais, et puis on a souvent eu l'image du sportif, tu vois, qui est une machine, tu vois, et du coup qui tourne tout le temps à plein régime et qui a jamais besoin de se reposer et de se changer les idées, quoi. Non, alors que c'est tout l'inverse.
Bah, en fait, c'est un peu ça le problème du sportif, c'est que. On est tout le temps, toute la saison, sur une ligne très très fine entre c'est bon et la catastrophe. Ouais. Et du coup, c'est vrai que faut jongler avec ça, mais quand tu tombes du mauvais côté, après, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça, faut pas trop s'amuser des fois.
Donc, morale de l'histoire, si ça va pas, prenez un break.
C'est ça.
Vous reviendrez encore plus fort.
Ouais, c'est ça.
Ok. Mais écoute, je savais pas effectivement que t'avais eu cette période un petit peu dure. Mm-hmm. T'es revenu vite. Du coup, sur les résultats après ce moment-là?
Contrairement à certains, moi, du coup, ça a été juste avant le confinement, en fait. Donc, 2019, j'ai eu, la mono, où j'ai été vraiment malade. Ça a duré, bien 2 mois après la fatigue. J'ai fait un break en janvier et il y a eu le confinement, du coup, en mars. Et en fait, moi, à ce moment-là, le confinement, il m'a fait du bien parce que c'était au moment où ça allait de mieux en mieux et où j'étais motivée à m'entraîner. Et du coup, j'en ai profité pour me réentraîner mieux quoi, de ce que j'avais pu faire jusqu'à présent. Et la fin de saison, elle avait été super bien. J'avais eu mon premier titre de championne de France de triathlon.
Ouais.
Donc ça s'était super bien passé. Et au final, cette saison, ça avait été vraiment un tournant pour... je pense que c'est la saison qui a vraiment fait le tournant pour ma carrière où j'en suis actuellement. Quoi.
Ok. Ah donc comme quoi...
Ouais.
On va pas dire qu'on recommande d'attraper la mononucléose, on dit pas ça du tout. Mais ça a été pour toi, peut-être le moyen de faire une jachère, tu vois, ou un peu de repartir de zéro, quoi.
Ben, je pense que chez les sportifs, les blessures, elles sont dures à gérer. Enfin, les blessures ou les maladies ou les arrêts, quoi. Elles peuvent être dures à gérer, mais quand t'apprends à les gérer, elles te permettent toujours de revenir plus fort, parce qu'elles t'ont forcément appris quelque chose et.
Ouais.
Donc sur ça,
Il y a beaucoup d'exemples, c'est vrai.
Ouais.
Ok. Et ça change quelque chose, tu vois, qu'est-ce que ça change dans ta tête, tu vois, justement, de ce premier titre, aussi le regard des autres, tu vois. Là, tu deviens la championne. Tu vois, on n'est plus la petite sœur 2, non, c'est toi. Tu peux en parler un peu de ce changement de position, de ce vent frais qui arrive peut-être dans ta tête aussi.
Je pense qu'à ce moment-là, c'était vraiment le côté où je me suis dit, en fait, faut que tu crois en toi maintenant, quoi. Parce que genre, où je me suis dit, t'as les armes, les filles que tu regardais avant vraiment comme des extraterrestres.
Ouais.
Maintenant, c'est des filles qui sont devenues tes adversaires, en fait. Et il faut que tu passes ce cap-là, quoi. Je pense que c'est vraiment ça. Ça a vraiment été ça le tournant où je me suis dit maintenant faut que t'arrêtes de les regarder comme si c'est des filles qui sont imprenables, quoi.
Ouais. Tu peux aller les titiller.
Ouais, je pense que ça a été ça. Après j'ai commencé à cette période-là, enfin dans cette année-là, le travail avec une préparatrice mentale.
Okay.
Donc je pense que ça m'a vachement aidé aussi sur ce côté-là et pour gérer tout ça. Mais je pense que c'est ça le changement, c'est de me dire et du coup la motivation que ça t'apporte en fait aussi pour le travail, de dire tu bosses depuis tant d'années mais ça y est, ça paye enfin et ça se voit enfin, et donc continue à faire ça, quoi.
Ouais, ok. Il y a des exercices ou des séances que justement t'as fait avec ta préparatrice mentale et que tu pourrais recommander un peu aux auditeurs sportifs, pas tous de haut niveau, tu vois, de faire il y a eu, je sais pas, des exercices, des déclics, des choses qui se sont passées.
Je pense un des meilleurs conseils que j'ai eu et le plus banal presque, c'est la cohérence cardiaque.
Ouais.
Alors pour moi, ça m'a aidé énormément pour les avant-courses, pour être plus détendu. Et souvent je le fais même juste avant de partir pour m'échauffer. Du coup, je fais de la cohérence cardiaque pendant 5 minutes et ça te redescend vraiment la pression et ça fait du bien. Et après, sinon, je pense que la visualisation, ça a été... la visualisation et aussi apprendre à être fière de ce que je faisais, à accepter que de me dire que ben là, c'est bien ce que t'as fait. T'as le droit de le dire et t'as le droit d'être contente, quoi. Je pense que ça, ça a été difficile pour moi au début.
Fêter les petites victoires.
Ouais.
Ok.
Ouais, ouais, carrément.
Le... Si on parle de la cohérence cardiaque, tu... T'es quelqu'un de stressé avant une course? Ou tu étais, en tout cas?
Je suis quelqu'un de stressé dans ma vie de tous les jours. Quelqu'un de qui stresse beaucoup, qui angoisse rapidement.
J'aurais jamais dit ça de toi, tu vois. Une heure ensemble, j'aurais pas du tout dit ça.
Donc après, je pense que je pense que le triathlon, ça, enfin le sport, ça m'a beaucoup aidé.
Ouais.
Mais bah, quand je dois passer des examens pour la fac, c'est un enfer quoi pour moi. Okay. C'est beaucoup de stress. Mais non, je pense que du coup là-dessus, c'est vrai que le triathlon, ça m'a beaucoup aidé. Et ça t'apporte aussi de la confiance en fait, parce que tu te retrouves à parler forcément avec des gens et tu te retrouves au milieu de personnes. Et du coup, ouais, je pense que le sport, ça m'a aidé là-dessus.
Ouais. Ouais. Mais... Puis on t'a donné un outil que tu peux utiliser tout le temps en plus.
C'est ça.
Cohérence cardiaque, tu peux l'utiliser pour n'importe quoi.
Mm-mm.
Ok. Trop bien. Et visualisation, tu. Qu'est-ce que tu fais en visualisation? Ça va être plutôt les courses, des avant-courses, tout le processus, des postures, des événements. Est-ce qu'il y a des... Toi, comment tu fais?
Alors,
parce qu'à chaque fois que je demande à un athlète la visualisation, il y a toujours une définition un peu différente. et j'adore ça. moi, c'est un outil que j'utilise énormément à titre personnel. Tu vois, même là, j'étais dans le train. Je savais pas où j'allais te rencontrer, je connaissais pas l'univers, mais je m'imaginais un peu, tu vois, faire l'interview. Et donc j'utilise beaucoup pour plein de choses, mais je suis très curieux de savoir toi comment est-ce que tu l'utilises.
Je pense que la première façon dont on l'a utilisé, c'était pour décrire la course en fait avant qu'elle se passe.
Ouais.
C'était vraiment mon idéal de course, et c'était dans l'optique que une fois que tes trajets neuronaux, ils ont été faits une première fois.
Ouais.
Il y a plus de chances que ça se reproduise. Donc, c'était dire en natation comment je voulais que ça se passe, la transition, le vélo. C'était vraiment toute la course en général, comment elle devait se passer pour que je fasse le meilleur résultat.
Ouais.
Et après, au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble, si on voyait des points plus précis à travailler, comme cette année, un des points les plus importants que j'ai eu à travailler, c'était mon positionnement sur le vélo et la technique. C'était quelque chose qui me faisait assez peur d'être en peloton, tout ça. Ben là, on s'est mis à travailler des trucs plus précis en visualisation comme ça. Mais sinon, au départ, c'était assez général. C'était vraiment sur le fonctionnement de la course. Pour me dire, sans faire des scénarios de course, parce que c'est impossible de savoir exactement comment ça va se passer, mais un peu l'idéal pour se préparer à comment ça pouvait se passer, quoi.
Ouais, ok. Ouais, imaginez un peu ta course idéale.
C'est ça, ouais.
Pour qu'elle se déroule et qu'elle se passe.
Ouais, c'est ça.
Et tu visualises aussi ce qui se passe avant. Je te pose la question parce que en discutant longuement avec Léo Berger, dont l'épisode d'ailleurs sortira juste après le tien, pour les auditeurs qui nous écoutent la semaine prochaine, c'est Léo, pour les triathlètes. Lui, il a énormément bossé le matin de la course. Notamment parce que je le reformule tel que je l'ai compris, et c'est pas sûrement pas exactement ça, mais il peut avoir tendance, tu vois, parfois être soit un peu tête en l'air ou un peu désorganisé, et que du coup, bah en fait, il pouvait se laisser emporter dans sa désorganisation du matin même, parce que bah tu vas me raconter juste après, mais le matin, vous avez énormément de choses à faire, il y a beaucoup de protocoles, il y a beaucoup de choses à mettre en place, et du coup, lui, ça lui est arrivé de perdre un peu les pédales, sans mauvais jeu de mots, tu vois. Et du coup, il visualise avant sa course. Est-ce que toi, c'est quelque chose que t'as commencé à bosser aussi?
C'était pas vraiment de la visualisation, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait vachement stresser, en fait, l'avant-course, parce que tu te dis, faut que je fasse ça, ça, ça. Et du coup, c'était plus le poser sur écrit, en fait. Je faisais un planning à partir de l'heure où je me réveillais et, approximativement les horaires auxquels je voulais que les choses se passent, et c'était le plus le fait que ce soit écrit, et une fois que c'est écrit, ben tu te les fais dans la tête et tu sais que ça va se dérouler comme ça, mais c'était pas vraiment de la visualisation à proprement parler, mais ouais, c'est vrai que je pense pour tout le monde c'est un moment assez stressant de toute façon.
Ouais, indirectement tu t'organises et
c'est ça, mais tu l'écris clairement pour que ce soit, mais ouais
Ok. Bon, bah, tu as chacun son truc, mais effectivement, il faut. Le fait d'écrire, en plus, ça te vide la tête, quoi. Tu te poses plus la question, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ci? Non, tu l'as écrit, c'est bon, c'est sur papier.
C'est ça.
Donc, si j'en ai re-besoin que j'ai oublié.
Tu regardes et ça.
Le matin, je regarde. Ok. Mm-hmm. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire un matin de course pour les auditeurs qui connaissent pas très bien le triathlon? Et pourquoi c'est si stressant?
Ben, c'est ça va dépendre aussi de chaque course, mais c'est vrai qu'aux courses internationales, ben déjà on doit se lever assez tôt pour manger.
Ouais.
Parce que
souvent le départ le matin.
Le matin et la digestion aussi, il faut qu'on mange en principe. Grosso modo, les athlètes ils finissent de manger entre 3h et 3h30 avant leur course.
Ouais.
Après, on a chacun nos habitudes de réveil musculaire. Ben moi, je sais que justement avec les problèmes de dos que j'ai eu cette année, je vais souvent faire en me réveillant du gainage, des lombaires, tout ça en première chose.
Ouais.
Après, je vais aller manger. Après, il y a tout ce qui est ben la préparation des affaires, même si tu les as préparées la veille. Le lendemain matin, tu mets quand même tout dans ton sac, faut t'habiller. Nous les filles,
il y a beaucoup d'affaires en fait. Les gens se rendent pas forcément compte. Mais entre tes affaires de vélo, tes chaussures de course à pied.
Puis c'est ça.
Sur l'alimentation aussi, vous gérez vous-même, vous avez le droit ou...
Ouais, souvent on va avoir des gels.
Ouais.
Souvent on en prend avant la course et pendant la course. On a des boissons de récup aussi pour après la course.
Ouais.
Donc c'est des petits trucs à préparer. Les lunettes, les chaussures pour la transition, les chaussures pour l'entraînement. Typiquement la semaine dernière au Japon, notre course a été à 9h du matin, donc quand tu pars t'échauffer à 7h du matin, il fait assez frais, donc faut prévoir des affaires pour t'habiller. Donc il y a tout ça. Il y a nous les filles, on a des cheveux, donc faut se coiffer pour pouvoir nager, rouler, courir avec, ça prend un peu de temps.
J'ai jamais pensé. Ouais. non mais vraiment, comment tu gères, ouais, du coup?
Ben tu verras quasiment toutes les filles en triathlon avec des tresses plaquées.
Ouais.
Parce qu'au moins ça bouge pas et tu peux tout mettre, tu peux mettre les bonnets de natation, le casque, il y a tout qui passe.
Okay.
Mais du coup faut les faire.
Du coup, c'est bête, tu les fais la veille au soir ou le matin?
Le matin en principe.
Ok.
Et après à l'international on a tout ce qui est bike checking, donc ils vérifient notre vélo, qu'il soit aux normes, que les composantes qu'on ait soient aux normes. Après ouais. On a l'athlète lunch où ils vérifient notre trifonction parce qu'on pareil, tu as certains logos à respecter sur la trifonction. Et c'est à ce moment-là où ils vont nous donner nos bonnets, nos puces. Donc, c'est des petits trucs où, sur le papier, ça peut aller très vite. Mais bon, tu as quand même entre 30 et 70 athlètes sur la ligne de départ. Donc, si tu décides d'y aller tous en même temps, ben, ça peut vite te prendre du temps, quoi.
Ouais. Ouais, ouais. Et tu peux aussi avoir le mini-stress. Alors, tu l'as passé 100 fois, mais le mini-stress que ça passe pas, quoi.
Ben, c'est ça, parce que tu dois faire ça. Puis après, il faut que tu ailles à la transition, quand même, pour préparer ton vélo, tes chaussures. Donc, ça. Puis, plus ben, l'échauffement que tu dois faire, parce que bon, ça va partir à fond. Donc, t'as intérêt à être échauffé avant, quoi.
Ouais. Et tu t'échauffes comment, du coup, avant une course, toi?
Moi, ce que je préfère, c'est faire des gros échauffements à vélo.
Ouais.
Donc, c'est là où je vais quand même passer le plus de temps. Après, moi, je vais quand même toujours aller courir un peu derrière parce que c'est vrai que bah, j'aime bien courir et voir un peu les sensations. Et après, je finis toujours par la natation. J'ai besoin d'aller...
Tu vas nager, du coup, le matin d'une course?
Ouais. Okay. Bah, on a souvent des créneaux sur le lieu où on va nager, en fait, sur le lieu de départ. Et moi, c'est vrai que j'aime bien quand même aller toucher l'eau avant, surtout si l'eau, elle est froide.
Ouais.
Quand elle est à 16 degrés, souvent ça met des barres au fond, donc le fait d'y aller au moins une fois avant, ça aide pour le départ, quoi.
Ouais, clairement. Bah, c'est un des trucs, tu vois, pour faire du triathlon amateur, c'est se jeter dans l'eau comme ça quand tu pars d'un ponton ou d'une plage, alors que t'as oublié de te mettre de l'eau dans le cou, tu pars un peu à l'arrache parce qu'il y a trop de monde, en fait. T'as 1000 personnes sur la ligne de départ, que tu t'es un peu pressé parce que t'es mal organisé, parce que dans l'organisation aussi c'est pas des professionnels, donc on est traité un peu différemment. C'est, en tout cas pour ma part et pour avoir parlé à d'autres triathlètes, c'est un truc qui te pourrit ta course, quoi.
Ah ouais, si t'as froid au début, c'est un enfer.
Sur les départs groupés en plus, tu peux avoir peur, il y a du remous, c'est
moi, s'il y a bien un conseil que je donnerais à tout le monde, c'est aller dans l'eau avant de enfin moi je sais que rien qu'à 16 degrés, alors qu'il y en a qui trouvent pas ça si froid que ça.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais moi, je sais que ça me met une barre au front. J'ai du mal à respirer pendant un moment pour mettre.
Ouais.
Alors qu'après, même si on a le line-up, donc pendant 15 minutes, on n'est pas encore parti, on est dehors. Ben, le fait que ton corps il y soit allé au moins une fois, il s'est habitué, quoi. Donc ça te fait pas du tout les mêmes sensations quand tu repars.
Ouais, t'as fait la transition de l'air à l'eau et
c'est
du coup,
ça,
moi, tu
ça
l'as fait
va
une
mieux.
Fois. Mais hyper intéressant. Mais en t'écoutant, j'ai l'impression que le matin avant une course, t'as 1000 trucs à faire.
Ah ouais.
Si tu démarres à 9h, si je comprends bien, il faut que tu te lèves à 4h du mat, quoi, presque.
Ben ouais, là, quand je me lève à 9h, enfin, quand la course, elle est aussitôt, genre 9h, là, on s'est levé à 5h du matin.
Ouais.
Et sinon, en principe, moi, ce que j'aime bien, c'est me réveiller 5h avant la course, si c'est possible, mais après, en fonction des horaires, quoi, on va pas non plus se réveiller à 2h du mat.
Ouais.
Donc,
il y a des courses qui commencent à 7h
Moi, ça m'est arrivé une fois quand j'avais fait le M d'Embrun.
Ok.
Mais je pense que là, c'était parce que c'était une organisation Ironman. Parce que sinon, non, c'est rare quand même.
Ouais.
À part les Ironman, nous, nos courses, elles commencent pas aussi tôt.
Ouais, ils font commencer super tôt.
Ouais.
Moi, j'ai un souvenir à Aix-en-Provence. Je crois que c'était 8h30 départ dans l'eau. C'était par vague. Tu vois, et au final, pour aller au lac, t'avais 45 minutes de bus. Tu vois, enfin, franchement, le matin, ça piquait, quoi.
Ouais, ouais. Non, bon, nous, plutôt, ça doit être 9h.
Tu déposes ton vélo et tu fais peut-être ton sac de transition la veille. Il y a un peu moins de contrôle aussi, je pense.
Ouais, et puis je pense, mine de rien, le départ d'un Ironman, c'est pas... Si t'es un peu moins échauffé au départ, c'est un peu moins gênant que nous, sur nos formats courts où ça part tout de suite, quoi.
Ouais. Non, et puis c'est hyper angoissant, tu vois. Il y a beaucoup de triathlètes qui ont peur de ces moments de la première bouée, quoi.
Ah ben ça, ouais,
ça se tape dessus, quoi.
Ouais, ça m'est arrivé une fois de pas finir la course à cause de ça, ouais, où je m'étais fait, tellement fait éclater dans l'eau, en fait, que je suis sortie, j'étais perdue, quoi.
Ouais.
Et là, c'est dur, quand même, hein, parce que tu te dis, quand t'es au niveau international, c'était sur les championnats d'Europe élite, en plus, l'année dernière, où tu te dis, c'est quand même des championnats d'Europe, tu t'attends à ce qu'il y ait un minimum de respect entre les athlètes, et en fait, tu vois qu'il y en a qui sont pas là du tout pour ça, et des fois tu te demandes même s'ils sont là pour finir la course, quoi.
Ah ouais,
là, cette fois là moi je sais que genre je m'étais vraiment fait déjà tu te fais tirer la trifonction dans tous les sens,
ça les voit les pieds,
des filles qui s'étaient retournées pour me couler, quoi. Genre tu te dis, mais en fait leur but c'est même pas de sortir de l'eau, quoi. Genre ouais, il y en a des fois, c'est surtout que je trouve ça dommage, parce que c'est le jeu de se foncer dedans, et on le sait, et tu peux pas en vouloir à tout le monde, mais il y en a, tu sens que c'est pas, elles le font exprès, quoi.
Ok.
Donc ouais.
Du coup, bon, on va pas citer de nom, mais tu dois sûrement avoir tes petites têtes de turc.
Ouais, il y en a qui sont connues en principe, de toute façon.
Ah, c'est vrai, vous le dites.
Celle-là, vaut mieux pas partir à côté.
Et c'est un truc justement sur le line-up que t'étudies. Tu vois, si tu sais que il y a une concurrente qui est un peu casse-pied, on va dire, pour rester poli. Parce que vous arrivez du coup par ordre, c'est ça, au
début.
Ouais,
ils nous appellent en fonction de la
sartiste. Ouais, de la sartiste, et tu te mets où tu veux sur le ponton.
Ouais.
Et du coup, ça t'arrive, tu vois, si t'es dans startlist, pas loin de quelqu'un que t'aimes pas, de te mettre à l'opposé ou...
Bah après, le problème, c'est que les pontons, ils sont rarement très justes de chaque côté. Enfin, il y a souvent un côté qui est très arrangeant.
Ouais.
Donc
le premier,
tu te mets à la suite, et du coup t'as pas forcément trop le choix non plus de ta position, quoi.
Ouais, et puis en plus, si tu te décales pour avoir une position moins avantageuse,
ouais, ça sert à rien.
Par rapport à ça, non, en plus t'envoies un signal à l'autre, quoi, en lui disant j'ai pas envie d'être avec toi, parce que tu me fais peur, quoi. Donc,
ouais, non, c'est pas... en principe, c'est plus ça peut arriver par contre que tu regardes les personnes autour de toi et que tu cherches les bonnes nageuses pour savoir les pieds à prendre.
Ouais.
C'est plus dans ce sens-là que ça m'est arrivé, mais je me suis rarement dit quand même. Faut pas que je sois à côté d'elle.
Ouais. Ouais, d'ailleurs, pour les non-initiés d'eau libre ou de triathlon, quand on dit les pieds à prendre, c'est pas pour attraper les pieds. ce que certains ou certaines triathlètes font et qu'il ne faut surtout pas faire, ces fameux casse-pieds. Mais c'est plutôt parce qu'il y a une aspiration dans l'eau et que tu peux du coup économiser beaucoup d'énergie quand tu suis quelqu'un qui nage bien, quoi.
Ouais, puis des fois, ça peut... Si t'es vraiment entouré de très bonnes nageuses, tu peux... Enfin, le départ, déjà, en principe, tu te fais vachement moins taper, quoi, parce que du coup, tu prends les vagues et tu surfes un peu dessus, quoi.
Ouais. Ok. Et très très chouette. Et comment tu gères toi la suite de la course, dans ta course idéale justement que t'as visualisé, est-ce que tu te vois plutôt en tête de peloton, comment est-ce que tu gères tes premières transitions, tu vois, c'est quoi tes temps forts justement, et les moments sur lesquels tu fais la différence?
Ben moi souvent déjà le plus compliqué c'est la natation, pour moi c'est ce qui me stresse le plus, je pense parce que c'est le départ, du coup je suis contente une fois qu'elle est finie. Et après mes temps forts, je sais que j'ai toujours eu des très bonnes transitions qui m'ont permis des fois de faire le cut sur les bons groupes, donc ça c'est cool. Et c'est vrai que c'est des parties de course où je trouve qu'une fois que t'as confiance dessus, c'est très dur de les louper, quoi.
Ouais.
Du coup, pour ça, c'est une bonne chose.
Si tu manques de confiance, tu peux complètement te...
C'est ça.
Partir à côté.
Comme les départs natation. La natation, je pense, c'est vraiment la partie où la confiance, elle joue le plus dedans, quoi. Et après, sinon, je pense que pour le moment, mon plus gros point fort, ça reste la course à pied.
Ouais.
Du coup, voilà.
Tu fais la diff.
Ouais.
Donc, le gros challenge pour toi, c'est d'être vraiment dans le premier peloton.
Et c'est ça.
Dans la tête de course au moment de la transition, quoi.
Ouais, c'est pas de me foirer sur la natte.
Ok.
Et après, en principe, à vélo, j'ai plus de mal du côté où j'ai encore un peu du mal niveau positionnement et technique. Faut encore que je travaille là-dessus, et où je pourrais économiser beaucoup d'énergie des fois sur les virages à rester dans les roues. Et sinon, après, je m'amuse plus en course à pied.
Ok. Mais c'est vrai que les non-initiés, et puis c'était mon cas en commençant le tri, on se rend pas compte à quel point rouler en peloton c'est technique, et à quel point ça s'apprend, et que ça fait énormément de différence sur l'énergie et musculairement, quoi, parce que vous êtes à bloc, quoi, sur le vélo.
Ouais, non, c'est vrai que en fait on se rend compte que toute l'année tu vas bosser des heures et des heures pour essayer de gagner 20, 30, 50 watts. Alors qu'en fait, des fois, juste si tu sais prendre un virage correctement, ben t'as pas besoin forcément de les gagner, ces watts, quoi.
Ouais.
Du coup, c'est vrai que pour ça, dans les virages, en fait, si tu fais pas l'accordéon et t'as pas d'énormes relances à faire, tu gagnes un jus énorme. Et quand t'as des courses qui se finissent au sprint et que tu te fais sortir au sprint, tu repenses à ta course et tu te dis, si j'avais pas fait toutes les relances à fond, peut-être que j'aurais eu un peu plus de jus sur le sprint, quoi.
Ouais, je vois. Et peut-être pour terminer, du coup, sur cette course idéale, dans la course à pied, tu vas plutôt être devant en tête de groupe, tu vois, si tu te retrouves avec un groupe de 4-5 athlètes, ce qui arrive assez souvent, en tout cas en sortie de transition, tu vas plutôt être celle qui attaque très vite pour essayer de casser les pattes de tes concurrentes, ou au contraire, plutôt de laisser travailler quelqu'un d'autre et ensuite de contre-attaquer parce que justement t'as un second souffle et tu sais bien relancer.
Je sais pas, jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai toujours eu, mais même, c'était pas tant technique, mais l'habitude de partir très très vite après la transition. Ouais. Et parce qu'après.
C'est des grands, hein. des grands, en triathlon.
C'est vrai que, il y a tellement de monde à la transition que t'as envie de partir vite aussi pour pas être trop embêté.
Ouais.
Et après, j'ai rarement eu trop de configurations de course. On s'est retrouvés à courir vraiment à beaucoup ensemble. Mais ça dépend tellement des courses, en fait. Parce que des fois, tu vas te retrouver sur un groupe où elles veulent pas courir, mais si personne court, ben derrière ça va te revenir dessus aussi, quoi. Donc c'est un peu dur des fois.
Ouais.
Mais en tout cas, oui, je sais que je sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est un défaut, mais en tout cas, je pars toujours à fond après la transition.
Ah mais si, je pense que c'est une super qualité. Moi, il y a beaucoup de triathlètes qui ont du mal à démarrer tout de suite à bloc et qui ont besoin, tu vois, de 500 mètres, 1 km pour vraiment avoir les jambes qui déroulent, quoi.
C'est sûr que si tu peux éviter d'avoir un écart à creuser de 10 secondes après un kilomètre, c'est mieux, quoi.
Ouais. c'est sûr. Écoute, super, merci beaucoup pour ces réponses. Je voulais parler un petit peu justement de ton orga sur l'année et peut-être sur une semaine un peu type. Ce qui m'amènera un petit peu aussi avec la team BP Aura, parce que tu m'as dit qu'il t'apportait pas mal. À quoi ressemble une semaine type avec Léa en ce moment? Enfin, peut-être pas en ce moment parce que du coup t'es en break, en récup, et que la fin de saison approche. Mais dans un pic de saison, à quoi ressemble une semaine type?
Dans un pic de saison, une semaine type, déjà, je vais nager donc 6 fois.
Okay.
Donc je vais faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Moi, je suis avec un club de nat, donc je commence mes journées pas très tôt, mais par contre, il est fini tard parce qu'on nage plus en fin de journée. Donc, je vais nager plus entre 17h30 et 20h.
C'est rare, hein, parce que je vois beaucoup qui s'entraînent, qui font le choix.
Chez les triathlètes, en principe, ça s'entraîne très tôt. Ouais. Et sauf que je pense que ça dépend aussi en fait avec qui tu t'entraînes, et moi le fait d'être calé à un club de natation où t'as aussi des lycéens, tu te cales plus sur ces horaires là. Du coup après je vais souvent commencer par le vélo ou la course à pied.
Ouais.
Du coup j'ai la chance de pas avoir besoin de me lever très tôt, par contre ça c'est agréable. et après grosso modo je vais quand même souvent faire les trois dans la journée. On va dire qu'il y a un jour où je vais pas courir et un jour où je vais pas rouler.
Ouais.
Et du coup, le dimanche où on nage pas. C'est sacré le dimanche, ça nage pas. Et du coup, ça prend déjà pas mal de temps. Après, il y a les séances. Grosso modo, va avoir deux séances dures à pied. Une plus longue et une avec plus d'intensité.
Ouais.
Pareil en natation. Et à vélo, c'est un peu différent. Enfin, il y a quand même besoin de plus de kilomètres. Donc, des fois, t'as un peu moins de séances, mais plus des sorties longues.
Mmh.
Et après, entre-temps, t'as le kiné. En principe, tu vas une fois par semaine si t'as pas de soucis. Des fois, un peu plus. Après, t'as la préparation mentale. Ça, j'y vais à peu près une fois toutes les deux semaines.
Ouais.
Et après, là, du coup, je suis rentrée en master. Donc, j'essaye de bosser un peu quand je peux avec les cours sur Internet. Mais du coup, ouais, ça fait des semaines bien chargées.
Ouais, c'est bien, bien dense, j'imagine. Et tu l'as dit, ouais, t'es avec un club de natation. Pour le vélo et pour la course à pied, t'es souvent seul, du coup?
Ouais, le vélo, j'ai la chance d'avoir mon entraîneur qui roule beaucoup.
Okay.
Et du coup, qui roule avec moi. Et après, pour les footings à pied, je suis souvent toute seule, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me dérange vraiment pas.
Ouais.
Et sur les séances à pied, je vais avoir mon entraîneur qui me suit à vélo, ça comme beaucoup d'autres athlètes.
Ouais.
Et sur le vélo, quelquefois, j'essaye de me caler avec mon frère, avec mon frère et le groupe de mon frère Cercle Performance quand j'ai l'occasion. Mais c'est vrai que ça colle pas toujours, quoi.
Ouais. Puis c'est que des garçons.
Ouais, donc il faut que ce soit tranquille la sortie.
Mais en tout cas, ça doit te tirer vers le haut, quoi. C'est pour le coup.
Ouais, c'est cool. Puis c'est vrai qu'ils ont
bien les garçons.
Puis ils ont un bon groupe, une bonne ambiance. Donc tu sais que tu vas passer un bon moment, quoi.
Ouais.
Faut pas être trop susceptible, mais tu peux passer un bon moment.
Le message est passé. écoute, tant mieux, c'est l'essentiel. Du coup, ouais, j'avais des petites questions, effectivement, sur la team BP Aura. Une des questions que je me posais et aussi que les, on va dire le public se pose, c'est qu'est-ce qu'apporte en plus, tu vois, ce type de partenaire comme Banque Populaire, comme qui investit, tu vois, dans des athlètes pour les accompagner. Alors tout le monde se doute de l'aspect financier, c'est évident. Mais tu m'as dit que ça t'apportait d'autres choses. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi?
Déjà, c'est vrai que la team BP Aura, pour le coup, ils font vraiment l'effort de qu'on ait quand même beaucoup de regroupements ou même des calls avec la team, tout ça.
Ouais.
Donc, c'est cool d'avoir l'opportunité d'échanger avec d'autres athlètes. Comme la dernière fois, c'était avec Laura Tarantula,
ouais,
qui est de Grenoble aussi. Et de
qui
pouvoir.
Qui habite à Lyon maintenant, je crois.
Ouais. Et de pouvoir communiquer. Sur les aspects de la sélection, par exemple, pour les jeux, parce qu'à ce moment-là, on parlait de ça, et on a chacun des choses qu'on trouve injustes dans notre sport, et en fait, ouais, on se rend compte que dans tous les sports, c'est un peu pareil. Donc, c'est vrai que des choses comme. Déjà, pour ça, c'est agréable de pouvoir parler avec les autres sportifs, tout ça.
Ouais.
Et
c'est vrai qu'en plus, toutes les deux, vous êtes dans un sport où la sélection, elle n'est pas forcément objective.
On s'est rendu compte qu'en fait, elle, nous, c'est les dossards, elle, c'est le bateau.
Ouais.
Mais c'est pas forcément la personne qui va chercher le dossard ou qui qualifie le bateau qui va aller au jeu.
Ouais, ouais, exactement.
Du coup, c'est vrai que sur ça, on se retrouvait sur ce point-là où on s'est dit, il n'y a pas que dans nos sports où c'est injuste. Ouais. Du coup, c'est vrai que ça, c'est cool d'avoir l'opportunité d'échanger avec les autres athlètes là-dessus. Et après, ils aident aussi vachement dans... Enfin, ils sont vachement à l'écoute des besoins qu'on peut avoir justement sur comment gérer les réseaux sociaux. Ils nous ont proposé de faire faire des formations là-dessus. Des formations, en fait, ils nous proposent des formations sur ce dont on ressent le besoin.
Ouais.
Et du coup, ça, c'est super agréable d'avoir aussi une relation comme ça et pas juste justement l'image et il te donne quelque chose. Donc, tu marques Team Bepora quelque part et ça s'arrête là, quoi.
Ouais.
Donc, ça, c'est agréable d'avoir ce côté vachement humain dans la team.
Ouais. Ouais. Et puis, je les sens vachement impliqués avec vous.
Ouais. De fou. Ils prennent des nouvelles, de savoir comment ça va. Donc, ouais, c'est agréable.
Ils parlent de vous comme presque de leurs enfants, tu vois.
Ouais, donc, ouais. Non, c'est pour ça. C'est super agréable de pouvoir faire partie de la team, quoi.
Ouais. Puis ils vous connaissent tous par cœur. Donc,
ouais, puis les potents, ça les intéresse aussi. Donc, donc non, ça, c'est cool, ça.
Ok, très chouette. Et peut-être sans forcément rentrer dans les détails, parce que ça peut être un sujet tabou, mais le fait que ça soit une banque, d'avoir un accompagnement pour les sujets financiers, parce que pour les athlètes de haut niveau, j'en parle rarement, tu vois, en ligne, mais on en parle souvent après. Notamment parce que voilà, j'ai monté quelques boîtes et du coup des fois ça suscite un peu de curiosité. Mais c'est un petit coup de main, c'est un petit plus aussi,
parce
que vous devez anticiper, votre carrière a une durée un peu limitée, tu vois, sans que ça soit péjoratif, mais c'est
oui,
concret.
Non, c'est vrai qu'il t'aide beaucoup parce que quasiment tous les sportifs, on se retrouve à un moment à devoir être auto-entrepreneur ou même si c'est pas pour des sommes énormes ou quoi que ce soit, mais c'est juste t'as pas le choix, quoi.
Ouais.
Du coup, c'est vrai que là-dessus,
faire des factures.
C'est ça. Donc, il t'aide là-dessus. Il t'aide aussi à gérer un peu tes comptes. Parce que c'est vrai que quand t'es sportif, tes revenus, des fois, ils sont un peu, dépendants des résultats que tu fais, des sponsors. Donc, t'as pas forcément la même gestion qu'une personne qui va avoir un travail lambda, entre guillemets, où t'as vraiment une paye qui tombe tous les mois.
Ouais.
Donc, pour ça, c'est vrai que il t'aide. Enfin, on sait qu'on peut leur demander de l'aide quand on veut là-dessus, il n'y a pas de souci, quoi.
Ouais. Puis peut-être anticiper un peu le futur aussi.
C'est ça, si on veut acheter ou quoi, ils sauront aussi nous conseiller là-dessus, quoi.
Ouais.
Donc pour ça, c'est cool.
Ouais, c'est toujours un petit plus.
C'est clair.
c'est important et il faut le mentionner. C'est important aussi que ça soit un acteur local. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a touché, que j'ai beaucoup aimé dans leur démarche. D'aller chercher des athlètes de la région. Du coup, t'as une proximité encore un peu plus élevée avec les athlètes. Comme tu l'as dit, Laura, elle est de Grenoble, même si maintenant elle vit à Lyon. J'ai pu rencontrer aussi Loana qui est à Annecy, mais c'est pas très loin. Ça crée quelque chose en plus, une petite fierté.
C'est clair. C'est agréable et puis surtout qu'ils fassent vraiment dans le local, mais pas par rapport au club d'appartenance. Ouais. Parce que c'est vrai que dans les sports, on se retrouve souvent à être dans des clubs pour X raisons, mais pas forcément, on s'entraîne même pas forcément dans le club ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour les courses. Et des fois, les gens, du coup, ils font un peu l'amalgame ou ils comprennent plus trop. Et du coup, là, de faire vraiment par rapport à la région et à la région du sportif sans parler du club, ça, c'est super agréable aussi, quoi.
Ouais.
De pas être... parce que oui, voilà, du coup, c'est vraiment notre région, c'est pas la région de notre club, donc on la connaît bien et c'est agréable de pouvoir être soutenu par la région, quoi.
Ouais, c'est clair, ça apporte quelque chose. Ça fait un an, toi, que t'es dans la team, c'est ça?
Ouais, je l'ai rejoint cette année, ouais.
Ok, bon, écoute, super. comme je disais, il y a eu des petites questions, mais que je trouvais vraiment bien de la part des collaborateurs. Bon, on a déjà calé un petit peu, on a déjà calé quelques-unes, mais il y avait une personne qui te suit sur les réseaux qui te demandait comment est-ce que tu avais du coup géré cette saison qui avait été un peu particulière pour toi parce que t'as eu quelques pépins physiques dont une hernie discale. Je sais pas comment ça t'est arrivé d'ailleurs, tu peux peut-être l'expliquer, mais quelqu'un en tout cas qui se souciait de savoir comment est-ce que tu avais réorganisé ta saison et comment est-ce que t'étais passé outre cette blessure qui est pas facile, qui est embêtante, quoi.
C'est sûr que je pense qu'au début ça a été très compliqué parce que j'ai eu cette blessure qui arrive en même temps que des problèmes que j'ai pu avoir personnellement aussi, comme une rupture, tout ça, où c'est toujours difficile à gérer. Et du coup, au départ, ce qui a été le plus compliqué, c'est qu'on a mis du temps à les trouver. Les deux premières courses de la saison, j'ai eu des abandons à cause des douleurs qu'on avait du mal à gérer. Surtout que l'année dernière, ça m'a pas empêché de faire une bonne saison, mais j'ai eu une cruralgie déjà pendant un long moment dans l'année.
Ouais.
Cet hiver, j'avais eu de nouveau une sciatique. Et donc là, les douleurs, quand elles ont apparu la première fois vraiment sur la course, donc on a fait un premier scanner où on a vu une hernie discale, donc en L5-S1, donc plutôt sur les lombaires. Donc là, au départ, je me suis dit, bon, ben, au moins, on a mis un diagnostic, on m'avait donné des exos à faire, tout ça. Et après, en mai, je pars pour la première WTS à Yokohama, au Japon, où quelques jours avant la course, ben là, les douleurs, elles descendaient de plus en plus dans le pied. Mmh. Et sur la partie vélo, ben, de nouveau, une sciatique qui descendait dans toute la jambe. Mmh. Donc bon, là, c'était un peu un coup dur parce qu'on s'est dit, bon, c'est quoi en fait le problème ? Surtout que j'avais pas de douleur à l'entraînement, donc c'était assez dur de comprendre ce qui se passait. Et en fait, j'ai fait d'autres examens qui m'ont montré cette fois un névrome de Morton.
Ouais.
Donc à droite, toujours.
Tu peux expliquer peut-être pour les...
Ouais, un névrome de Morton, du coup, c'est une sorte de kyste, en fait, entre les orteils et qui va venir comprimer le nerf. Donc, du coup, j'avais l'hernie discale d'un côté et le névrome de Morton de l'autre.
Sur l'autre pied ?
Tout du même côté, tout à droite.
Ok.
Donc, les médecins, ils avaient pensé à ça parce qu'on a réfléchi à surtout la différence qu'il y avait entre l'entraînement et la compétition. Et que la différence qu'il y avait, c'était qu'en compétition, tu te retrouves à courir pieds nus, en fait, à des moments.
Bien sûr.
Sur les transitions et que c'était sûrement ça, du coup, qui déclenchait les douleurs. Et du coup, à partir de là, ben... Une fois qu'on a su ça, on a pu mettre en place... j'ai refait des études posturales pour le vélo. J'ai eu des semelles aussi. Et du coup, pour le moment, ça a l'air d'aller. Ouais. Donc c'est ça surtout qui m'a aidé à passer le truc. Et après, il a fallu quelques courses en fait aussi. Parce que du coup, après au départ de chaque course, c'était...
C'est ça. T'as pas les mêmes sensations quoi.
Puis l'appréhension en fait de se dire... mais est-ce que sur cette course, ça va passer quoi ? Donc, il a fallu qu'il y en ait quand même bien deux, trois sans douleur pour que je me dise, bon, ça y est, cette fois, c'est derrière moi.
Ok.
Donc, ouais.
Mais en tout cas, moi, tu vois, je te l'ai pas encore dit, mais vraiment, je t'admire pour ta capacité à rebondir. parce que tu vois, en préparant cette interview et tout, j'ai vu, tu vois, on voit quelques articles ou ton contenu, tu vois, que t'as des pépins physiques. Et malgré ça, enfin, tu progresses encore beaucoup, 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 et je pense que t'as encore une grosse marge de progression à aller chercher. Là où tu vois beaucoup, j'aurais pu renoncer ou abandonner, et moi j'ai été bluffé, tu vois, par cette résilience, tu vois, et cette capacité à rebondir sur chacun de ces pépins physiques. Le corps s'endurcit, le corps est antifragile. Tu vois, j'aime beaucoup ce mot antifragile. C'est mon mot du moment, mais parce que pourquoi antifragile ? Parce que fragile, c'est tout ce qui se casse quand il y a un problème. Et antifragile, c'est tout ce qui se renforce, tu vois. Il y a pas vraiment de mots pour exprimer tout ce qui se renforce après un événement ou un traumatisme ou une catastrophe, tu vois.
Mm-mm.
Donc antifragile, et moi je te trouve très antifragile. À chaque fois, j'ai l'impression que tu reviens encore plus forte à chaque fois.
Ouais, c'est vrai. Après je pense que j'ai la chance d'être quand même bien entourée. Du coup, ça aide vachement.
Tout seul, tu vois. Mais...
C'est ça. Après, il y en a des moments de doute. Hein, tu te poses la question. Là, cette saison, elle a été. Ouais, c'est sûr que ça n'a pas été la saison que j'aurais voulu. Surtout que l'année dernière, je terminais une saison parfaite entre guillemets. Donc, tu t'attends toujours à ce que ça reparte à fond, quoi.
Ouais.
Donc, c'est vrai que ça, des fois, ça a été un peu dur à accepter au début. Mais là. Je pense que la course qui m'a fait du bien, ben, c'est la course de la semaine dernière au Japon où je fais ma quatrième place. Je pense qu'il y a eu, à part celle-là, il y a eu aucune course cette saison où j'ai eu réussi à me dire, ça va quoi, tu vas bien.
Ok.
Mais ouais, non, c'est sûr.
Ça serait peut-être ta plus belle réussite ou un de tes plus beaux souvenirs, du coup, la course à Miyazaki.
Je pense. Je pense parce que ben justement ça a été une année compliquée. Ben j'ai eu les blessures, j'ai eu une rupture amoureuse, c'est toujours violent chez tout le monde.
Ouais.
Et
ben, je compatis.
En principe, de toute façon, la vie de sportif, on est tellement pas justement, dépendant des émotions qu'on peut avoir, que je pense que c'est aussi un peu lié souvent. Enfin, quand t'as une rupture, une blessure en même temps, c'est il y a un peu tout qui va ensemble aussi, quoi.
Ouais.
Donc, je pense que cette année, ce qui a été dur, c'est qu'il a fallu le temps de qu'il y ait tout qui se recale et que je retrouve mon équilibre à moi et que je me retrouve bien. Et que justement, là, avant le Japon, c'était la première fois où j'arrivais et où j'étais confiante de comme j'étais et où surtout, genre, pas que sportivement, mais juste, genre, moi, je me sentais bien, quoi. Genre, je me disais, en ce moment, je vais bien et je me suis retrouvée et genre j'ai remis les choses en place pour moi quoi.
Ouais.
Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence aussi.
Heureuse dans la tête et le corps suit quoi.
Ouais.
Bon bah trop bien. Et effectivement tu vois, je te rejoins. Un célèbre président de la République française qui aimait beaucoup aller au salon de l'agriculture avait pour habitude de dire les emmerdes arrivent toujours en escadrille. Bon, c'est pas très poli, mais vu que c'est un président de la République, on a le droit. C'est pour le reprendre, et c'est souvent le cas en fait. Tu vois, on a des cycles. Et des fois, quand il y a un grain de sable dans l'engrenage, qu'on force dessus, et on casse tous les maillons de la chaîne, quoi.
Ouais, ouais. Donc, mais bon.
Quand c'est reconstruit.
C'est ça, après ça va mieux.
Mais trop bien, trop trop bien. Et il y a une course que tu préfères par rapport à toutes les autres sur lesquelles tu as un souvenir particulier, le parcours te plaît, le public te plaît. C'est quoi les courses qui t'ont fait rêver jusqu'à présent?
Je pense qu'il y a eu Hambourg.
Ouais.
Où c'est une des WTS les plus connues aussi justement par le public, et je pense que c'est une des celles que j'ai le plus regardé aussi devant mon écran.
Bien sûr.
Donc d'y être, c'est un peu un rêve quoi. Après je pense qu'il y a eu Abu Dhabi l'année dernière, parce que c'était ma première WTS, et genre d'être là, genre ça me paraissait dingue quoi, je comprenais pas ce qui se passait.
Cette ville est un peu lunaire quoi.
C'est ça. Donc
donc
ça je pense que ça a été assez ouf.
OK.
Et après, sinon, je dirais aussi l'année dernière, la Coupe d'Europe de Melilla, la première course de la saison. Mais c'est aussi là où j'avais fait... Ben, je pense que c'était ma meilleure course à l'époque et qui avait montré que j'avais vraiment passé un cap.
Ouais.
Et où j'avais eu ma sélection pour les championnats du monde, championnats d'Europe. Donc, c'était assez dingue, quoi.
Ouais, OK. Et en France, Cocorico, d'ailleurs, t'as mentionné Hambourg. Il me semble... que l'année prochaine il y a une WTS en France.
J'ai pas regardé. Je sais pas.
Il me semble que c'est Léo qui m'a dit ça. Je sais plus. J'ai un petit trou. Mais en tout cas,
il y a le test event en France à Paris.
Pardon. Voilà, exactement. Il y a le test event. Donc le public français, on a intérêt à faire concurrence à nos voisins allemands et à montrer qu'on est un meilleur public. C'est important. Donc on a intérêt à mettre de l'ambiance sur les courses sur les courses qu'il y a.
Mais en France, non, je pense que la plus belle course qu'il y a en France, je dirais Quiberon.
Ouais.
Déjà, le parcours, il est super beau.
C'est un grand prix, hein, c'est ça?
Ouais. Donc déjà, le parcours, il est super beau. Et le public breton, il est toujours ouf. Il y a toujours énormément de monde, même quand les courses, elles sont tôt le matin.
Ouais.
Donc non, franchement, je pense que Quiberon, c'est une des meilleures courses qu'il y a en France, ouais.
Ouais. Ouais, et puis de toute façon, sur toute la côte ouest atlantique, tu vois, moi, je me souviens de la Baule. À Royan aussi, t'as un triathlon.
Saint-Jean-de-Mont aussi cette année.
Saint-Jean-de-Mont, exactement. C'est toujours des endroits où Deauville, on peut pas l'oublier.
Ouais, si, ouais.
Y a un Grand Prix à Deauville.
Non, c'était un triathlon. Il y avait pas de Grand Prix.
Ouais, bon, c'est un des plus gros triathlons, on va dire, grand public en France, mais qui est très connu pour la fameuse côte qui s'appelle, je l'ai oublié. mais en tout cas, une belle côte bien raide à la fin. Mais ouais, sur la côte atlantique, il y a toujours des bons publics et de belles ambiances. Donc voilà. Et nos amis des Alpes, parce qu'il y a aussi quelques très beaux triathlons dans les Alpes.
Oui,
vous en voulez pas.
C'est vrai que le triathlon de l'Alpe d'Huez, j'ai réussi à pas le faire jusqu'à présent, même si mon entraîneur elle a essayé de me le faire faire. Mais c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir un public de ouf, mais faut s'accrocher sur la montée.
clairement, c'est pas pour tous les profils.
Non.
Et trop bien. Et je regarde les petites questions. Alors il y a une question qui a été posée, je crois d'ailleurs par ton entraîneur, mais on est obligé de la dire. Il y a une athlète française là récemment qui a rejoint le Cambodge pour concourir probablement du coup à l'international et probablement pour les Jeux Olympiques de Paris. Je pense que celle-là.
On sait pas trop. Ouais.
Je sais pas à quel point vous le connaissez, mais qui a fait ce choix-là. Sans, tu vois, on n'est pas obligé de enfin on peut rester bienveillant et tout, mais est-ce que toi c'est une solution qui t'a traversé l'esprit de changer de nationalité?
Non, parce que
j'ai oublié le nom de l'athlète, tu me l'as dit à l'instant.
Margot Garabedian.
Ok.
Moi non, parce que dans ma façon de raisonner, je considérais que je le prendrais comme un échec en fait.
Ok.
Genre après surtout le côté où j'ai eu, j'ai l'opportunité par les résultats que j'ai eu de concourir sur les WTS et sur les championnats du monde et ouais. d'être en liste parmi les filles qui vont concourir pour les Jeux et que du coup d'être arrivée à ce stade-là en France, si je partirais ailleurs, pour moi ce serait me dire que je prends une soit que ça veut dire que je me considère pas assez forte
ouais.
et du coup dans ces cas-là ça sert à rien de faire du triathlon, soit que ce serait un peu un échec quoi, parce que j'ai pas réussi à battre les autres françaises, du coup je vais aller dans un autre pays plus facile pour y aller, genre c'est ce côté-là qui me dérange un peu. Après je comprends qu'il y ait des athlètes qui décident de le faire
ouais.
parce que les Jeux ça reste un rêve de dingue quand t'es sportif, mais le process qu'il y a derrière, moi c'est quelque chose qui me dérange un peu.
Ouais. Ouais, c'est la réflexion qui mène à ce résultat-là qui te convient pas, quoi.
Ouais.
Ouais, ouais. Je peux comprendre. T'as mentionné effectivement, du coup, la concurrence.
Mm-hmm.
Le triathlon est. Enfin, la France est une terre de triathlon. Il y a un très très gros niveau. Beaucoup d'athlètes à la fois chez les garçons et chez les filles qui excellent. La preuve avec des médailles internationales en mixte aussi.
Mm-hmm.
Ça doit titiller l'envie d'en faire bientôt et je suis sûr que ça va arriver. Comment est-ce que ça gère justement quand t'es un petit peu la petite nouvelle, que tu vois, t'as de plus en plus le vent en poupe, tu vois, là, ces 2-3 dernières années. Il y a aussi une bonne ambiance dans cette équipe. Ça se ressent que c'est des gens qui s'amusent. Comment est-ce que toi, tu le perçois?
Je pense que justement, ça a été aussi une des choses qui a été un peu plus compliquée pour moi de gérer en début d'année, ce côté de ce changement de statut, en fait,
ouais.
où l'année dernière, je courais un peu avec la mentalité de rien avoir à perdre.
Ouais.
Et que tout d'un coup, t'as l'impression que t'as encore plus de choses à prouver, quoi.
Ouais.
Donc, je pense que pour le coup, ce changement est un peu compliqué.
C'est très individuel en plus, tu vois. C'est...
Aussi. Je pense que j'ai été super contente d'avoir mon frère avec moi sur les courses. C'est vrai que ça reste une aide de dingue, parce que même si on s'entend tous super bien, ça reste, sur la course, ça reste des concurrents ou des concurrentes, quoi. Alors que mon grand frère, c'est pas un concurrent. Donc, ouais. C'est vrai que pour ça, c'est agréable. Mais c'est vrai qu'on a la chance de tous bien s'entendre aussi ensemble. Donc, c'est cool de quand tu passes la ligne, d'être... si t'as fait cette fois-là, si c'est toi qui as été la meilleure, de pouvoir être félicité par les autres et de féliciter les autres aussi parce que c'est le jeu, quoi. C'est le sport. Tu peux pas toujours être le meilleur, quoi.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Puis j'imagine être accueilli dans une équipe avec quelqu'un que tu connais déjà bien. Ça aide toujours aussi, au moins humainement.
Ouais, non, carrément, ouais.
Ok, ok, ok. Écoute, je touche du bois pour toi. Je sais que forcément, j'aurais une petite larme à l'œil le jour où il y aura les sélections parce que je suis un grand fan de triathlon et que je sais que il y a trop de candidats pour trop peu de places, malheureusement.
Mm-hmm.
Que c'est, en plus, c'est pas mérité à sur le classement international non plus, parce que, comme tu l'as dit, il y a des petites nations qui se sont représentées du coup pour les Jeux ou pour les grands événements.
Ouais, c'est vrai qu'en triathlon, pour ça, c'est compliqué parce qu'il y a du coup un nombre de dossards, parce qu'on peut pas être trop sur la ligne de départ, mais du coup, ça va être faussé parce qu'il y a des nations qui vont pouvoir aller au jeu alors que sur les WTS, c'est ouais. à peine si elles vont rentrer. D'ailleurs, il y en a même qui sont pas sur WTS. Et à l'inverse...
C'est vrai, il y a des nations qui seront au jeu, qui sont pas sur...
Les New Flags, ils sont pas toujours...
Ok.
Et à l'inverse, on a des grosses nations comme l'Amérique ou l'Angleterre, notamment l'Angleterre qui domine en ce moment avec 6-7 filles sur des départs WTS qui pourront mettre que 3 au jeu, quoi.
Ouais.
Donc c'est vrai que pour ça, la course des Jeux, c'est un peu dommage en triathlon de pas pouvoir représenter toutes les personnes qu'il y a, quoi.
Ouais, et puis c'est un peu le cas, tu mentionnes l'Angleterre, mais c'est aussi un peu le cas de la France.
Oui.
Vous êtes nombreuses et les Anglais. Et puis je me souviens aussi des frères Bromley qui ont pris beaucoup de place sur les Jeux.
Clair.
Sur les Jeux. Et qu'on... Il y avait des super athlètes derrière eux, mais pour le coup, il y avait aucune place, quoi.
Non, ils ont pris beaucoup de place, ouais.
Ouais. Écoute, tout. Moi, j'espère que ça se passera bien et j'en suis sûr. Il y a pas de doute là-dessus. Là, on a abordé plein de sujets. Du coup, j'ai un petit peu mes petites questions de la fin, qui sont un peu des questions un peu pour rigoler. La première, c'est de savoir quelles sont les trois. Si je prends ta playlist musicale, quelles sont les trois dernières musiques que t'as écoutées?
Les trois dernières musiques que j'ai écoutées, alors j'ai écouté, je pense, des chansons que pas tout le monde connaît. Ouais, j'ai dû écouter du Linda Lemay.
Ouais.
Renaud.
Ok.
Et derrière, ça doit être Section d'Assaut, je crois.
Ok.
Donc ça ratisse large.
Ok. Bah écoute, très bien. Est-ce qu'il y a un film ou un livre que tu recommanderais à tout le monde de regarder ou de voir tellement... toi, il t'a inspiré ou il t'a apporté un message?
Alors là, comme ça, c'est dur de trouver. Des films, il y en a plein que j'aime beaucoup.
Ouais.
Mais je sais
bon,
pas.
C'est... plein, hein, c'est pour...
Après, il y a Invictus qui avait été génial.
Ouais.
Tu trouves? Je pense que peut-être c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. Ouais.
Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film?
Bah, c'était l'histoire qui racontait et la façon dont c'était faite. Je trouve que ça a changé un peu de ce qu'on avait l'habitude de raconter d'habitude, quoi.
Ouais. Ok. Bon, bah écoute, trop bien. Je mettrai la ref pour les auditeurs. Tu lis un peu?
Je lis un peu. Surtout en déplacement, en fait. Chez moi, j'ai du mal à me poser pour lire, mais en déplacement, il y a plus de temps.
Ok. Et qu'est-ce que tu as lu récemment?
Récemment, j'ai lu Marc Lévy.
Ok.
Noah.
Toujours super bien. Ok.
Et voilà. Et là, je suis en train de lire Musso. Le dernier de Musso.
Ok, ouais, j'en ai lu très peu des Musso. Il faudrait que j'en lise. Moi, je lis beaucoup, je t'avoue. Mais j'ai lu. Avant, quand je faisais du business, c'était des bouquins de business. Après, quand je suis arrivé dans le sport, j'ai lu toutes les biographies, ouais. Autobiographies, tu vois. Les Nadal, les Agassi, Lance Armstrong, enfin, tu vois, il y en a tellement, il y en a plein qui sont chouettes aussi, donc, que je pourrais recommander.
Celle de Martin Fourcade aussi, elle est cool.
Ouais, exactement. Elle vient d'arriver dans ma bibliothèque, donc il faut absolument que je la lise. Donc, et on m'a conseillé aussi celle de Kevin Mayer.
Ok, voilà. J'ai pas lu celle-là.
Donc il faut que je lui mette. On a de la lecture. Trop bien. C'est quoi une bonne journée pour toi?
Une bonne journée?
Ouais.
Niveau sportif ou
de tout. C'était une journée de vacances. Allez, une journée de vacances.
Une journée de vacances.
On a déjà assez parlé de sport aujourd'hui.
Non, c'est je pense passer du temps, pouvoir voir mes amis, aller manger dehors avec eux. C'est vrai que je pense que c'est un truc. Qui est super important pour moi, surtout que c'est pas des triathlètes. Ouais. Enfin, c'est des sportifs, mais ils font pas de triathlon, ils bossent, ils ont leur vie. Et du coup, c'est super agréable de pouvoir avoir des gens qui te connaissent très bien et qui te parlent pas de sport, quoi, qui te parlent de tout sauf ça.
Ouais, qui vont t'embêter 10 minutes et puis après
c'est ça.
Passer à un autre sujet.
Ouais.
Ok. Donc une bonne bouffe avec les copains.
Ouais, carrément. Okay.
Trop chouette. D'ailleurs, en parlant de nourriture, si t'as droit à un cheat meal ou un repas de fête. Et il y a un buffet à volonté avec tous tes plats préférés. Tu te jettes sur quoi en premier?
Alors moi, je crois que mon plus gros problème, c'est le chocolat.
Ok.
Donc c'est vrai que tout ce qui est à base de chocolat, je pense que je pourrais faire des repas à base de gâteaux, de chocolat uniquement. Ça me dérangerait pas.
Alors plutôt fondant, plutôt brownie, plutôt moelleux, plutôt éclair.
Un peu tout. Mais fondant, je pense que c'est ce que je préfère. Mais ouais, le chocolat en général. Je pars toujours avec ma tablette de chocolat sur les courses, de toute façon.
Donc, trop chouette. Bah écoute, j'arrive à ma toute dernière question. Comme je te le disais, c'est un peu, c'est un passage de micro envers, d'ailleurs, ça peut être des triathlètes, mais ça peut être des sportives et des sportifs autres. Quelle est la prochaine athlète et le prochain athlète que tu me recommandes d'aller rencontrer pour parler un peu de prépa mentale, d'organisation, de petits pépins, puis de choses plus joyeuses. Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller rencontrer?
La prochaine athlète, je te dirais Emma Lombardi.
Okay.
Une triathlète qui est un peu plus jeune que moi, mais qui l'année dernière, on a fait vraiment toute la saison ensemble. Et cette année, qui commence à percer aussi énormément avec son premier podium en WTS.
On la voit de plus en plus, ouais.
Ouais. Donc, puis personnellement, genre, c'est une fille avec qui je m'entends super bien. Donc, et après, en garçon, comme ça, c'est vrai que j'ai pas d'idée.
Ça peut être juste quelqu'un qui t'inspire et que tu connais pas forcément. C'est pas, pas d'obligation.
Non, je pense sinon, je te dirais Jordan Potin.
Ok.
Le nageur avec qui. Avec qui on nageait dans le même club quand j'étais petite. Et je pense qu'il a eu un parcours assez, assez atypique et du coup assez intéressant. Ouais.
Mais écoute, je connais très peu, donc je vais me renseigner. Ils sont du coup, Jordan, il est du coin. Et...
Jordan, il est de Grenoble.
Ouais.
Et Emma, elle s'entraîne à Boulouris, à Saint-Raphaël avec Léo.
D'accord, ok. Ok, ça marche. Bon, bah, comme ça, je pourrais faire un voyage intelligent. Mais écoute, trop bien, trop bien. Merci infiniment Léa pour ce moment. Je me suis vraiment régalé de pouvoir parler de tout, de rien, avec le sourire, sans, tu vois, dans un petit contexte cosy, sans pression. Et puis encore une fois, ouais, je t'admire beaucoup pour tu vois, de ta façon de rebondir et de toujours voir la vie de façon optimiste. Donc bon, tu m'as dit que t'étais une grande stressée, mais j'y crois pas du tout. Et tu laisses rien passer. Donc comme on dit par chez moi, bon vent, et il y a que les montagnes qui se recroisent pas. Alors je te dis à très vite.
Bah merci beaucoup pour le moment. À bientôt.
Salut, à bientôt.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.